École normale supérieure, savoir en multimédia.
Alors, la première fois que j'étais venue, j'avais parlé de Jean Santeuil. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ensuite, c'était Montesquieu et à présent Anna de Noailles. Je me dis que c'est curieux parce que finalement, les trois appartiennent au même univers, sont un petit peu des constellations de la Belle Époque entre deux siècles. Et les trois aussi nous soulèvent la question de la tentation autobiographique. C'est-à-dire que pour Proust, on sait qu'avec Jean Santeuil, vous avez un roman à la troisième personne qui finalement est très proche de Proust, hein, que Jean de Jean Santeuil est beaucoup plus proche de Marcel que le Marcel proféré plus ou moins par Albertine dans La Prisonnière, et que la lecture autobiographique naïve qui était celle des contemporains de Proust, qui était la première lecture erronée, évidemment n'aboutissait qu'à une impasse. Dans le cas de Montesquieu, vous avez donc la volonté de construire un monument poétique, un tombeau poétique, mais aussi de rivaliser avec le jeune homme, hein, pour reprendre l'expression de Barrès, et finalement de reprendre sa place en tant qu'auteur. Hein. Donc les mémoires de Montesquieu que j'avais présentées la dernière fois, les pas effacés, nous montraient cette volonté de parler de soi en évoquant les grandes personnalités de cette époque. Et chez Montesquieu, vous avez bien la concurrence, enfin le parallélisme entre prose et poésie. D'ailleurs, prose et poésie qui est donc le titre de votre thèse, hein, pour Anna de Noailles. Donc je l'avais spontanément choisi. Je me suis dit, c'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Et puis je me suis dit, mais c'est le titre de Marie-Lise. Donc prose entre prose et poésie, la solution, c'est le récit poétique qu'on a avec la recherche. Chez Montesquieu, il s'agit plutôt d'insérer dans les mémoires, les pas effacés, des extraits de poèmes pour construire sa propre anthologie et pour rester dans la mémoire. Pour Anna de Noailles, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le projet autobiographique n'apparaît pas. Alors si on prend par exemple les derniers vers et les poèmes d'enfance, on se rend compte que la petite fille ne pense pas évidemment à l'autobiographie. Hein, c'est les poèmes d'enfance publiés en fin de parcours, donc la boucle est bouclée. Bon, c'est pas du tout évidemment comme Proust, mais vous avez un retour aux sources et aux origines qui se fait dans les dernières années, à la fin des années 20, au début des années 30, puisqu'elle s'éteint en 1933. Et on voit dans ces poèmes d'enfance qu'on est dans la phase du pastiche, un petit peu comme Proust. Hein. Proust et ses modèles, ses contre-modèles, révérés pour mieux démolir. Hein. On sait évidemment que, par exemple, quel est le rôle d'Anatole France dans la construction de l'écriture de Proust. Alors, je ne lirai pas les extraits des poèmes d'enfance, mais on y lit du Hugo, on y voit des variations aux échos, aux résonances qui nous font penser à Lamartine, à Musset. Bon, par-delà, évidemment, la dimension nietzschéenne, mais qui, évidemment, n'apparaît pas dans la forme poétique. Dans les derniers vers, alors, si on prend en bout de course, donc, la petite fille, évidemment, n'a pas de projet autobiographique. Il y a un ego, évidemment, on dit souvent ego Hugo, mais aussi cet ego chez Anna de Noailles. Est-ce qu'il apparaît dans les derniers vers? Alors, curieusement, dans les derniers poèmes, je vous dirai juste deux extraits. Elle semble se investie d'une mission. Hein, donc, Anna de Noailles, on l'a souvent comparée à Victor Hugo féminin. Alors, dans ces derniers vers, d'ailleurs, le poème s'intitule « Mission ». Et elle dit, donc ça ce sera très rapide, « J'ai reçu dans mes yeux le jeune éclat du jour, en sentant mon plaisir moins sacré que ma tâche, repoussant les repos heureux, j'ai sans relâche exalté l'univers et le perfide amour. » Vous voyez, donc mission, tâche, et dernier vers de ce premier poème, des derniers vers, « Vous que je porte en moi flamme azur océan, puisque je vais mourir, que dirais-je, au néant ?» Mais on voit bien que c'est pas Anna de Noailles, elle n'évoque pas l'Orient, ni son père, ni sa mère, c'est un jeu tout à fait impersonnel, un jeu poétique, qui d'ailleurs est tellement anonyme, tellement désincarné, à l'image de cette poétesse agonisante, hein, qui sent, comme dans la formule de Pascal, hein, c'est une chose horrible de sentir s'écouler tout ce qu'on possède. On pourrait l'appliquer à Anna de Noailles, à la perte des êtres chers. Pensez au recueil « Les vivants et les morts ». Chez Anna de Noailles, le moteur de l'écriture, c'est aussi la perte de à la fois de ses repères et de sa famille. Souvenez-vous, chez Proust, décès de, au début du 20e, décès du père, de la mère, mort de la grand-mère, tout cela se retrouve. Et bien, ce qu'on a dans la recherche sous la forme d'une prose, d'un récit poétique, on le retrouve chez Anna de Noailles dans ses poèmes qui sont des inscriptions dans la mémoire et une volonté de, non pas rattraper le temps perdu, mais de donner forme éternité à ceux auxquels elle rend hommage. Et le dernier, alors là j'accélère, dans les derniers vers, les derniers échos qui nous montrent bien que l'autobiographie reste quand même assez trouble, elle intitule ce poème « Celui qui meurt peut tout ». Alors ça m'étonne, parce qu'on aurait envie de dire « Celle qui meurt peut tout ». Or, on sait qu'Anna de Noailles n'a jamais voulu qu'on utilise le terme, vous me confirmerez, de poétesse, et que pour elle, elle est poète avant tout. Donc poète, c'est plus une question de féminin, masculin, d'écriture féminine, parce qu'on a tôt fait d'enfermer hein, les écrivaines, les auteurs et les poétesses dans ce que j'appellerais parfois, hein, pas un ghetto littéraire, mais pour les auteurs masculins, il y aurait, oui, ce sont des femmes, et donc qu'on les laisse de côté. Chez elles, non. Hein. Donc ce n'est pas tant une rivalité masculine féminine qu'une volonté d'avoir un jeu universel, le poète, Orphée au féminin, hein, comme on pourrait le constater. Alors s'il n'y a pas de projet autobiographique, voyez dans les premiers et les derniers vers, où se retrouvent alors les traces, bon, il s'éteint tout le temps, donc ça ne va pas du tout, de ce jeu. Alors quels sont donc les poèmes, finalement, rendent mieux compte de la fragmentation du moi que l'autobiographie proprement dite. Alors, de manière chronologique, si l'on regarde la prose qui se rapproche le plus de l'autobiographie, on trouve le livre de ma vie, donc évidemment, ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas un projet autobiographique, mais qui finalement apparaît en fin de course. De même, la présentation, la préface, le prologue des poèmes d'enfance, c'est très long, hein, c'est presque aussi long que les poèmes d'enfance, évoque les différentes étapes de manière chronologique, à 2 ans, à 6 ans, à 12 ans, à 13 ans. Vous voyez. Donc l'autobiographie chez Anna de Noailles, elle ne surgit qu'au crépuscule. Hein, on aurait envie de faire un rapprochement avec Nathalie Sarraute. Hein, pourquoi elle écrit enfance, mais pourquoi la Russie réapparaît à la fin, hein, chez Anna de Noailles. Alors les racines, enfin les origines orientales, hein, ce mythe qu'elle construit autour de l'Orient, la Roumanie, surtout la Grèce, elle éclate, enfin elle se développe de manière flagrante à la fin. Donc vous avez cette concurrence. Donc pour la prose autobiographique, à la fin se réveille et puis cette tentative de construire quelque chose, mais comme on le sait, le livre de ma vie ne va pas jusqu'au bout. C'est l'enfance et l'adolescence, c'est la jeunesse. Et puis pour la présentation des poèmes d'enfance, bah évidemment, ça s'arrête aussi au seuil de l'adolescence. Alors que ce qui m'intéressait ici, c'est, alors je n'aurai pas le temps de présenter évidemment, donc ce sera comme seul échantillon, donc le poème que vous allez voir sur écran, « Étranger qui viendra », alors qui, alors j'avance... Donc, Étranger qui viendra, c'est cet extrait de
c'est une autre image.
Oui, alors il faudrait arriver à la page 121, qui est dactylographiée.
C'est celle-là.
Oui, c'est celle-ci. Oui. Donc, que vous voyez. Alors, je remercie évidemment Marie-Lise pour son aide. Donc vous allez avoir une série de pages, alors à la fois une dactylographie assez peu remaniée, hein, et puis évidemment la version manuscrite qui, elle, est, pour reprendre hein, donc, cette expression qui revient assez souvent, foisonnante, jaillissante. Enfin, on a l'impression que Anna de Noailles est toujours en train de recomposer hein, son propre portrait, l'image qu'elle laisse d'elle-même. Alors, cette impression d'écriture funèbre, de monument poétique, de tombeau, hein, c'est ce que vous avez sur cette première page. Je ne sais pas si oui, vous le voyez bien. Je n'ai pas besoin de lire.
Si vous voulez qu'on lise.
Oui. Étranger qui viendra lorsque je serai morte, contempler mon lac genevois, laisse que ma ferveur dès à présent t'exhorte à bien aimer ce que je vois. Donc on reconnaît évidemment le poème épitaphe. Hein, c'est l'équivalent du latin passant, voyageur, arrête-toi. Hein. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où elle construit son propre tombeau, elle n'est pas, on pourrait dire, dans les derniers moments de sa vie, mais dès les premiers poèmes, et on le voit même dans Le cœur innombrable, dans L'ombre des jours, dans Les éblouissements, elle adopte cette posture de la morte vivante. C'est, alors on disait Hugo au féminin, c'est aussi Chateaubriand au féminin, hein, au carrefour des siècles, des continents et de l'histoire. Elle veut témoigner. Donc c'est à la fois moi-je, hein, chez Anna de Noailles, le moi est adorable, invisiblement, mais c'est un jeu qui, dans lequel elle aimerait, alors elle le dit très souvent, que le lecteur retrouve son propre cheminement. Donc c'est pas du tout un moi qui serait supérieur, un moi fermé au monde, mais un partage, une communion, alors on pourrait dire avec la nature. Il est vrai qu'elle évoque souvent Rousseau, et une pensée, une inspiration cosmique. Donc c'est moi et le reste de l'humanité, moi et la nature, et non pas un moi drapé dans un particularisme qui serait princesse, moi princesse de Brancovent. Il n'y a pas de dédain, de supériorité aristocratique. Alors c'est ce qu'on voit dans ce premier vers, dans ce premier quatrain. Au bout d'un blanc chemin bordé par des prairies s'ouvre mon jardin odorant. Descends parmi les fleurs, visite, je te prie, le beau chalet de mes parents. Ce qui est très étonnant dans cette section âme des paysages, c'est l'inscription dans un paysage, dans le vécu. C'est-à-dire qu'elle ne va pas parler. Ce n'est pas un paysage de pastoral ou bien une nature convenue, une nature romantique, néo-pseudo-romantique. Elle assume pleinement la volonté d'ancrer ce poème dans. C'est un morceau de vie. Donc vous avez évidemment dans toutes les marques de personnel, hein, mon jardin, je te prie, mes parents. Donc la résurgence de l'autobiographie se fait dans ces morceaux. Dans ces morceaux de paysages, dans ces bribes. Et finalement, à quoi sert l'écriture poétique ? C'est qu'au lieu de raconter, comme elle le fait si bien dans le livre de ma vie, dans une prose qui, alors bon, je me permets de le dire, semble quand même en deçà de l'originalité de ses vers. C'est-à-dire que c'est souvent verbeux, elle a tendance à... Enfin, elle se perd. Je dirais que le récit poétique chez Anna de Noailles n'a pas la même force que... la simplicité qu'on trouve dans sa poésie. Parce que, vous voyez, le beau chalet de mes parents, mon jardin odorant, ça se traduit en prose par « dans le jardin dans lequel j'aimais me promener ». Enfin, bon, j'invente, mais vous voyez, ce sera tout de suite très bavard, un peu grandiloquent, et avec cette manie des adjectifs qui est tout à fait romantique. Alors qu'ici, jardin odorant, chalet de mes parents, tout est concentré. Donc la forme poétique permet à l'autobiographie de se dire de manière concentrée et de créer des microcosmes. Voyez, là où la prose dilue, là où la prose se perd, la preuve, elle n'arrive pas au bout, hein, dans le livre de sa vie, elle sent bien qu'une fois qu'on a parlé de son enfance et de l'adolescence, elle n'a plus rien à dire, parce que la vraie vie, c'est la littérature, et finalement, si elle parle d'elle-même, elle doit parler de son écriture. Il n'y a plus de pittoresque, d'événement, de familial. Alors la suite. C'est là dans le salon que de fraîches cretonnes rendent claires et gaies comme l'eau, que j'écoutais le soir auprès d'un feu d'automne, ma mère jouait du piano. Donc on retrouve l'équivalent dans le livre de ma vie, hein, je n'ai pas le temps de développer, mais elle va parler, elle va présenter un portrait de sa mère, à la fois physique, en acte, hein, en train de jouer, et puis cela se traduira par des petites scénettes, hein, enfin bon, Marie-Lise, vous vous souvenez, où elle montre que sa vocation musicale étant entravée par sa mère, parce que sa mère magistralement l'a fait descendre de son tabouret en lui disant « mais ma fille, tu n'es absolument pas douée », elle commence à interpréter, je ne sais plus, Chopin, Schubert. Donc là, la petite fille ne peut plus avoir accès à la musique essentielle. Donc elle se détournera de la mélodie, donc je cite de mémoire Anna de Noailles, en se lançant dans la prosodie. Donc la musique des vers compensera une vocation brisée. Et donc elle, c'est ce qu'elle dit, hein, « Cette noble musique en grande véhémence, tout le long de ma vie m'aida, donne-lui des regrets, puis goûte le silence de la rêveuse Véranda. » Elle dit qu'elle est née du bois de son piano, hein, c'est ce qu'elle raconte. Alors, ce que vous trouvez, alors, il faudrait passer à une autre page, donc la page
laquelle
116.
Ça doit être avant, alors, non ?
Oui. Alors, à présent, donc, vous avez un autre échantillon, cette fois-ci un manuscrit, hein, qui vous permet de voir un petit peu les fameuses ratures, hein, qui, en principe, n'existent pas, mais qu'on remarque ici. Alors, je lis donc, la version. « Tu verras, elle semble une barque amarrée entre la demeure et le lac. Je gisais là, enfant, par l'azur pressuré, comme creux d'un dormant hamac. » Donc, la suite... Un divan turc chargé de coussins lourds et rêches me portait et m'offrait aux cieux. L'infini se prenait, miraculeuse pêche, dans la résille de mes yeux.
Pas facile,
c'est pas facile.
Poétique en nuit.
Oui.
Poétique en nuit.
Marie-Lise, vous voulez venir?
Peut-être que pêche depuis à la plus... Je ne peux pas lire là.
Peut-être qu'on pourrait grossir, je ne sais pas. C'est...
Le brasillant aspect des nuits chargé de... couleur
oui.
Turquoise, non, peut-être, je sais pas.
Turquoise.
Oui.
Alors, ce qu'elle fait souvent...
Par la turquoise du jour et puis la marée.
Oui. Alors, souvent, elle met des petits mots, pas sous forme de colonne, mais elle hésite, enfin, vous me confirmerez, entre différents mots, ça dépend des rimes. Et finalement, ce qui motive son inspiration, c'est plus le son que le sens. Par exemple, elle hésitera entre confus début ou bien entre remords. Et l'ordre des mots, par exemple, elle mettra remords à la rime, parce qu'évidemment, remords appelle mort. Voyez. Donc c'est moins l'idée qui va essayer de trouver après un habit musical et puis une rime adéquate que la rime qui précédera le choix du mot. Donc c'est pour cette raison que l'écriture poétique est ici... vacillante. Alors j'essaie de retrouver. Ah oui, c'est tâche de voir bien qu'elle soit changée. Alors je vous lis en attendant. Et puis quand la rosée est parcéron de perles, ainsi qu'un cristal insomni, parcourt le vieux balcon où, comme un jeune merle, je marchais volant à demi. Ce qu'on remarque, c'est une poésie extrêmement descriptive, hein, qu'on pourrait, on pourrait mettre en parallèle l'extrait du livre de ma vie, hein, où vous avez. Des ébauches d'évocation du jardin, ce qui est aussi rendu par systématiquement les enjambements. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre bout à bout ces vers et puis finalement basculer de la poésie, donc poésie rimée, rythmée, tout à fait classique, à de la prose poétique. Donc finalement, la frontière est ténue. Donc entre un découpage possible de la prose poétique d'Anna de Noailles et puis le fait de mettre bout à bout, là, comme je vous l'ai lu ici, les vers qui font qu'il n'y a pas tant de hiatus, hein, de fossé entre les deux, de différence, je dirais, qualitative. Alors, tâche de voir, oui, c'est ce qui m'intéressait. Tâche de voir aussi, bien qu'elle soit changée de mobilier, de couleur, la chambre où, me sentant par la nuit protégée, je dormais auprès de ma sœur. Vous voyez ? Donc, l'inspiration et le projet autobiographique apparaissent dans les figures familiales. Alors que dans Le cœur innombrable, dans L'ombre des jours, enfin, dans d'autres poèmes, vous n'avez pas, vous avez moins de vous n'avez pas cette présence de. Des figures familiales. Ici, même s'ils ne sont pas nommés, hein, ma sœur, mes parents permettent finalement pour Anna de Noailles de se dire et de donner corps et réalité concrète à ces figures. Alors tâchons. Le tâche de voir remplace le trouveront aussi. C'est bien ce que vous lisez. Tu trouveras aussi. Le trouveras aussi, bien qu'elle soit, oh là là, changée. Et puis alors vous avez ce que nous disions tout à l'heure, l'hésitation finalement à la rime, entre finalement vous avez protégé, changé, et puis ici gorgé, hein, qui viennent ici compléter le tableau. Alors un peu plus loin,
Oui, tu verras.
Oui, très bien. Donc là, vous avez l'exemple de double correction, à la fois sur la version, sur le tapuscrit, et puis l'ajout du manuscrit. Donc vous avez exactement ce que nous avons vu tout à l'heure. Hein, donc c'est, l'étape suivante. Donc vous vous souvenez, à tâche de voir aussi, bien qu'elle soit changée à la place de tu trouveras aussi, le protégé qui remplace gorgé. Et ensuite, au deuxième quatrain, l'ajout manuscrit, un divan turc chargé de coussins, lourds et rêches, me portait et m'offrait aux cieux. Alors, je vais accélérer un petit peu. Donc, en vous montrant que dans ce poème, donc, vous avez une inscription aussi dans une géographie personnelle avec les toponymes. Alors, c'est un petit peu plus loin, mais là, je vous lirai directement. Laisse que ton regard dans les flots se délecte parmi les fins poissons heureux. De là, on le voit, le soir, comme d'ardents insectes s'allumer Lausanne et Montreux.
C'était où exactement le fameux chalet de mes parents ?
Le chalet, c'était le fameux chalet d'Amphion, la villa Bassaraba. Oui, oui, enfin, oui, oui. Donc véritablement, quand elle parle de mes chalets, c'est pas du tout une reconstruction comme chez Proust. Quand Proust parle de la maison de Tante Léonie, on hésite entre la maison d'Auteuil, entre la maison de Combray, et on sait qu'il n'y a pas forcément une seule source à partir de la création du toponyme. Tandis que chez Anna de Noailles, c'est indéniable. Enfin vraiment. Non, 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 malheureusement. Alors, vous avez déjà donc ce premier échantillon qui est le plus riche. Alors, après, un peu au galop, maintenant, je cite les autres poèmes qui me permettent de retrouver, je dirais, les traces autobiographiques et le projet, disons, en émietté d'Anna de Noailles. Alors, donc, là, je vais aller directement au texte parce que ce sera plus simple. Alors, c'est dans... il s'agit du poème, alors qu'on n'a pas pu retrouver Constantinople, dans lequel on peut véritablement établir un parallèle entre les pages du livre de ma vie, donc le voyage de la famille à Constantinople, la découverte de l'oncle, du grand-père et de toute cette partie, de toute cette part orientale d'Anna de Noailles. Et alors, je ferai juste un parallèle avec l'hypothèse suivante, ce n'est pas la prose qui sert de matériau de départ d'avant-texte de brouillon pour l'élaboration poétique. Chez Anna de Noailles, c'est toujours à rebours, à l'envers, c'est-à-dire que finalement, elle s'inspire de ses poèmes, peut-être qu'elle relie et qu'elle insère dans le livre de ma vie. Donc c'est l'exemple que je n'aurais pas le temps de développer pour le poème intitulé Les Charmettes. Donc elle évoque je ne l'ai pas mis parce que je savais que je n'aurais pas le temps. C'est un pèlerinage sur les traces de Rousseau, un voyage qu'elle fait avec les époux Barès. Donc dans le livre de ma vie, elle raconte, donc elle décrit évidemment la maison, ses impressions, et puis elle termine en disant que sur le livre des visiteurs, elle écrit, c'est presque une déclaration d'amour à Jean-Jacques Rousseau, mais on sait que derrière cette déclaration d'amour à Jean-Jacques Rousseau, c'est aussi une déclaration à Barès, vous voyez, donc c'est un peu un double destinataire. Or, dans le livre de ma vie, elle insère aussi le poème qu'elle a écrit. C'est-à-dire que vous avez les deux versions. Donc, le poème antérieur sur les charmettes inséré dans le morceau de prose. Et chacun illustrant l'autre. Ou sinon, proposant une version du vécu, le pèlerinage littéraire. Alors, pour Constantinople, c'est le contraire. C'est que vous avez le poème qui a été écrit. Donc je vous lirai quelques extraits, et ensuite les pages tout à fait anecdotiques et pittoresques du livre de ma vie. Et l'on sent, alors j'aurais envie de dire, l'impuissance d'Anna de Noailles, c'est-à-dire que finalement la prose est toujours en deçà du vécu, et elle est toujours en deçà du jaillissement, de la fulgurance de la poésie. C'est-à-dire qu'avec la poésie, on a une autobiographie par vignette, par cliché, par scénette, par... construction, c'est un kaléidoscope, oui. Et quand elle passe à la prose, il faut bien qu'elle trouve, pour reprendre l'expression de Montaigne, les jointoyures, les transitions, et puis ça ne marche pas. C'est toujours un peu décevant, enfin bon, c'est peut-être une opinion personnelle, bon, peut-être que, bon, on peut aimer aussi le livre de ma vie, mais quand on a lu les poèmes et qu'on lit la version en prose, eh bien on se dit, il y a des perditions. Alors je vous donnerai un exemple. Je commencerai à l'envers cette fois-ci par le livre de ma vie. Alors elle dit, notre arrivée à Constantinople fut par son respect, ses extases, paradoxalement celles des chrétiens débarquant en Terre Sainte. L'éclat du ciel turc et du blanc village d'Arnaoukeï où s'élevait le palais de mon grand-père ne me fut révélé qu'à travers une grave maladie qui me retint couché sous la moustiquaire du lit placé dans l'immense salon dénudé. Voilà. Et après, elle parle dans son projet autobiographique de ses embarras gastriques. Donc on voit que la prose côtoie le prosaïque. Alors elle ne donne pas de détails évidemment, mais elle dit quand même, il n'était question que de cuisine, de digestion, d'indigestion, de dysenterie, de fièvre, typhoïde. Les plus chanceux, les plus vigoureux d'entre les convives guérissaient grâce à quelques journées de jeûne. D'autres se voyaient terrassés par la qualité et l'abondance des pilafs aux pois chiches, des moules géantes, des dolmas, boulettes de riz farcies, de chair de mouton et présentées dans des feuilles de vigne, des aubergines gorgées d'huile, des pastèques glaciales. Donc, qu'est-ce que la prose ? La prose, c'est la tentation de l'exhaustivité. Tout noter. C'est un peu comme Proust dans sa correspondance, hein, quand il donne un bilan de santé de ses insomnies, de ses embarras gastriques. Pour Anna de Noailles, c'est pareil. Hein. Elle a été très malade. Hein, et le souvenir qu'elle garde de Constantinople, de ce voyage en Orient, c'est qu'elle était alitée, elle n'a pas vraiment voyagé, elle avait mal au ventre, elle avait mal à la tête. C'est une horreur. Hein. Donc la prose autobiographique prosaïque, c'est à l'état brut la réalité d'un corps malade. Et quelle est la transposition ? Parce que vous allez me dire... qu'est devenu le fameux voyage en Orient, hein, qui évidemment est loin d'être nervadien ici. Alors je vous lis l'équivalent. J'ai vu Constantinople étant petite fille, je m'en souviens un peu, je me souviens d'un vase où la myrrhe grésille et d'un minaret bleu. C'est-à-dire que évidemment, c'est fini les dolmas, la purée de pois chiche ou je ne sais quel délice ou loukoum. Ce qui reste de Constantinople, c'est la myrrhe et le minaret bleu. C'est-à-dire qu'on est entre Hugo, ça me fait penser à la poésie des orientales, c'est-à-dire c'est un Orient complètement reconstruit où le littéraire l'emporte sur le vécu. Regardez la suite. Je me souviens d'un soir aux eaux douces d'Asie, soir traînant si mou, que déjà comme un chaud serpent la poésie s'enroulait à mon cou. Ben non, le serpent c'était plutôt les maux d'estomac et ces boyaux qui se tordaient. Ah bon, sans vouloir. Alors malgré tout, vous me direz, est-ce que la poésie ne garde pas une trace de la vision gourmande de la petite fille ? Alors malgré tout, une barque passa pleine de friandises, ô parfum balancé, des marchands nous tendaient des pâtes de cerises et des cédrats glacés. Vous voyez quand même comment on est passé du salé au sucré. Je ne sais pas s'il faudrait faire un commentaire. Une vieille faisait cuire des aubergines sur l'herbe sous un toit. Le ciel du soir était plus beau qu'on imagine. J'avais pitié de moi. Alors, ce qui est plus intéressant dans le passage de la poésie poétique à la prose prosaïque, c'est l'allusion, alors c'est peut-être un souvenir aussi de Nerval, à une atmosphère, pas de harem, mais disons d'attente, de jeune fille presque cloîtrée en attente du prince charmant des mille et une nuits qui ne viendra jamais. Et elle-même parle évoque la figure de Madame Bovary. Alors que dit-elle ? J'attendais le bonheur que les petites filles rêvent si fortement quand l'odeur du bain joint et des vertes vanilles évoque un jeune amant. Donc ici, le télescopage, on dirait, de Hugo et de Baudelaire. Je cherchais quelque aimable et soudaine aventure, quel enfantin vizir dans ce palais plus tendre et frais que la nature allait me retenir. Alors si on considère que la poésie est l'avant-texte, mais finalement, c'est le contraire. Donc elle a dû engranger, évidemment, dont tous ses souvenirs, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, quel est l'équivalent en prose de cette attente toute bovarienne d'un prince charmant des mille et une nuits ? Alors, je vous lis le passage. La plupart d'entre elles, donc ce sont toutes ces jeunes filles qui papillonnent autour d'elles, non mariées, n'avaient pour but que de plaire à un homme qu'elles enchaîneraient, dont elles feraient leur époux. Les circonstances leur refusaient avec persistance cette juste convoitise. Pareil tout à Madame Bovary, modèle sans omission, elle rêvait, s'irritait, languissait dans un nuage de désir où se colorait la vision de vies insoupçonnées, de voyages romanesques, de plaisirs paresseux ou trépidants, mélange de variations perpétuelles et d'éternité. Alors, vous notez évidemment le développement, l'analyse psychologique de la prose, oui, et après je vais conclure. Or, ce qu'ajoute la prose, c'est non seulement le prosaïsme des biens terrestres, hein, des nourritures et des maux d'estomac, mais surtout c'est l'ironie, et je dirais même quelque chose d'un peu méchant. Alors je vous lis La suite, qu'un seul homme s'arrêta quelque instant à Arnaout Cueilly, fut-il secrètement le compagnon obèse, soumis et inattaquable de quelques sultanes, ou le conservateur vieilli d'un musée de Perak son intelligence faisait valoir, ou encore un de ses jeunes cousins voyageurs tout occupés d'une actrice occidentale, on voyait dès le départ de ces porteurs d'illusions les beaux visages féminins rougis, gonflés de larmes, accablés par le désenchantement. Elles dépérissaient, s'alitaient, cessaient de manger, et soucieuses pourtant par amour propre de ne pas confier leur déception, faisaient savoir par une vieille servante dévouée fanatiquement à chacune d'elles que seul un malaise digestif les obligeait déjà un repos prolongé. Vous voyez, des mots d'estomac aux mots poétiques, on voit bien que le travail entre la prose et la poésie, ça a été un travail de dépliage. C'est-à-dire que la poésie concentre les souvenirs de d'enfance, le récit de voyage, et ce que fait la prose, eh bien, elle va développer, mais même en quittant les sentiers du lyrisme, d'une sentimentalité facile et naïve, et en pointant du doigt ce qui est douloureux, c'est-à-dire, en effet, je dirais ce rêve d'amour brisé, où je sens l'écho d'Anna de Noailles, je ne veux pas évidemment faire du pour Anna de Noailles ou du pour Sainte-Beuve, mais c'est aussi des échos de sa propre vie sentimentale. Alors, en conclusion, alors je m'excuse d'être allée un peu au galop, donc on voit que dans les titres, ne serait-ce que des recueils, quand même une volonté d'associer écriture poétique et construction d'une mémoire personnelle. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le monument, le tombeau poétique. Ne serait-ce que, vous voyez, l'ombre, même l'ombre des jours, les éblouissements, les forces éternelles, les vivants et les morts. Très, très rapidement, l'autobiographie revient au galop, alors que dans Le cœur innombrable, on est dans la sensation, le sentiment. Vous voyez, donc poésie. La poésie, ce serait l'émiettement, la discontinuité et aussi le fait de vivre dans l'immédiat et au présent. Et au fur et à mesure que l'écriture d'Anna de Noailles se développe, l'immédiateté du présent est dépassée par une volonté de revenir en arrière, ce qui se fait d'une écriture à l'autre. Donc le moi poétique est trompeur. Et il est vrai qu'on a envie, de manière naïve, nous lecteurs, de retrouver dans le jeu d'Anna de Noailles un jeu qui serait comme celui de Baudelaire quand on retrouve des souvenirs de son voyage vers l'océan Indien, le jeu du Verlaine de la bonne chanson, ou bien le jeu de Rimbaud cheminant à travers la campagne. Mais d'une certaine manière, chez Anna de Noailles, la poésie se substitue à la vie. Chez elle, la vraie vie, c'est la littérature, parce que quand elle se raconte, elle sent bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'à un moment, elle n'a plus rien à dire. En dehors de l'enfance parisienne, des ancêtres prestigieux de l'Orient, elle ne peut plus parler d'elle-même, parce que parler d'elle-même, ce serait parler de son moi en train d'écrire. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de construire une œuvre autobiographique réelle, donc avec des dates, avec des faits qui iraient jusqu'au crépuscule de sa vie, elle préfère substituer un mythe personnel, un mythe solaire, à la fois apollinien et dionysiaque, et en construisant un Orient que certains qualifieraient de pacotille, puisqu'on l'a vu, c'est un petit peu l'exotisme baudelairien et l'Orient de Victor Hugo. C'est pour cette raison que ce jeu poétique est beaucoup plus universel et que de toute façon, il reste quand même de grands absents. On pourrait dire que dans cette poésie amoureuse, on aurait envie de dire quel est le tu. Est-ce que c'est Barrès? Est-ce que c'est le neveu de Barrès? Est-ce que c'est Maurice Chevalier? Est-ce que c'est Henri Franck? Donc, si on veut vraiment retrouver ce que j'appellerais une poésie à clé, de même qu'on dit qu'il y a des romans à clé, est-ce qu'il y a une poésie à clé chez Anna de Noailles? Finalement, alors ce sera ma conclusion, elle rêve d'une autre existence démultipliée, telle serait alors la clé du cœur innombrable, donc un jeu qui peut en cacher un autre, et il s'agit moins de raconter sa vie que de raconter la naissance d'une vocation. C'est pour cette raison que dans cette cohabitation entre prose et poésie, la matière première, ce n'est pas donc la prose qu'on mettrait en forme pour aboutir à un poème, c'est le contraire, c'est ce que j'essaie de montrer. Les poèmes sont des briques primordiales, ce sont des morceaux de vécu, des microcosmes, une écriture concentrée qu'elle s'efforce à la fin de développer pour donner des explications. Tout se passe comme si le livre de ma vie ou la préface des poèmes d'enfance que je n'ai pas eu le temps de lire, où elle dit « j'ai 2 ans, j'ai 6 ans, j'ai 13 ans », étaient des notes de bas de page qu'elle aimerait rajouter à ses poèmes. Donc elle invite le lecteur à relire finalement l'ensemble de son œuvre en ayant en main le livre de ma vie, bon, peut-être des fragments de correspondance, de carnet, mais qui permettaient de compléter le poème. Voyez. Donc le cheminement, ce serait un jeu universel qui dépasserait le pittoresque de l'enfance. Mais à aucun moment, elle ne veut finalement faire s'enfermer, je dirais, dans de l'autobiographie qui serait uniquement anecdotique, familiale, pittoresque. Donc elle a retrouvé de cette manière une forme de, si vous voulez, de respiration et d'inspiration essentielle. Voilà. Je m'excuse.
Merci beaucoup, Danvan. Oui.